Bon, on est tous là pour la deuxième partie. On va maintenant, dans deux minutes, on va regarder le résultat de vos discussions en petits groupes. Tout d'abord, je voulais juste vous lire quelques petits passages du cours qui vont juste élucider ou nous donner une autre nuance sur les discussions de la journée. Le premier passage vient de la leçon 23 qui porte le titre « Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. » Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. Je vais juste lire trois petites paragraphes là. « Le monde que tu vois est un monde vengeur et tout en lui est symbole de vengeance. » Parce que précédemment, il nous a parlé du fond de notre pensée, est une pensée de séparation par rapport à l'amour, qui est en fait une pensée d'attaque contre l'amour, qui dit l'amour, tu n'es pas suffisant. Voilà, tu me laisses incomplet, ce qui était impossible. On a parlé de ça déjà une fois. L'amour nous complète parfaitement, mais nous avons décidé maintenant de dire non, tu ne me remplis pas. Mais c'est une sorte de critique ou d'attaque sur l'amour pour dire « tu n'es pas suffisant, j'estime que je serais mieux à me séparer de toi, à m'écarter de toi ». Donc le fond de la pensée de cette planète, de cet univers, de dimension physique, c'est une pensée d'attaque selon un cours en miracle. Et donc le fond de la pensée de l'individualité est toujours cette idée de différence, et avec la différence emporte une atteinte à l'identité de l'autre. La vraie identité de l'autre se situe toujours au sein du Christ, au sein de l'amour. On parle pas, on dirait pas qu'il n'a pas les tendances égoïstes, les tendances même violentes des fois, des tendances qui viennent directement dans un esprit juste. Nous avons tous un esprit divisé. Mais nous devons aussi nous souvenir, nous rappeler de son esprit juste. Et au sein de son esprit juste se trouve le souvenir, le doux rappel du Christ en lui. Chacun, même le meurtrier le plus fou, contient cet esprit, ce brin de l'esprit du Christ, cet esprit juste, cet esprit qui peut nous rappeler de la perfection. Le monde que tu vois est un monde vengeur et tout en lui est symbole de vengeance. Chacune de tes perceptions de la réalité extérieure, entre guillemets, parce que nous avons appris que la réalité extérieure n'est que la représentation de nos perceptions, la réalité est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. Et c'est pour ça que nous avons du mal avec le monde. Ce n'est pas que le monde nous agresse. Oui, des fois le monde nous attaque. C'est plutôt que nous ressentons nos propres pensées d'attaque là-bas. Nos jugements, notre besoin ou désir de voir notre malheur là-bas, comme si c'est en train de nous attaquer de nouveau, projeté de l'extérieur. C'est à se demander si cela peut s'appeler voir. Est-ce que fantasme n'est pas un meilleur mot pour un tel processus? Et hallucination, un terme plus approprié pour le résultat. Tu vois le monde que tu as fait par nos perceptions, mais tu ne te vois pas toi-même comme le faiseur d'images. Nous faisons les images déjà dans deux sens. Si ce monde, selon la philosophie d'un cours en miracle, comme selon d'autres philosophies, c'est une illusion, ce n'est pas une illusion qui nous a été imposée, c'est notre propre fabrication. Nous sommes en train de fabriquer ces images mutuellement, communément. Donc, un niveau de fabrication d'images, nous sommes faiseurs d'images, mais plus important pour nous, ce que représentent les images pour nous, la façon que ces images portent une certaine interprétation, ou douleur, ou tristesse, ou nous rendent colériques, ce genre d'interprétation, ça c'est ma responsabilité, je suis le faiseur de ces images. Quand il parle d'images, il parle de situation, ou d'un événement, d'une condition dans la vie, une circonstance. C'est moi qui l'a fait. Tu ne peux pas être sauvé du monde. D'accord ? Tu ne peux pas être sauvé du monde. dans le sens que des fois, on se trouve dans des circonstances, dans des situations qu'on ne peut pas changer. Des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. Mais tu peux échapper de sa cause. D'accord? Tu peux échapper de sa cause. La cause de ce que nous voyons au niveau de notre ressenti sont nos pensées. Si je bascule ma pensée de mon esprit faux, dévoué à trouver que je suis une victime souffrante des conditions extérieures et des méchants dans ma vie, si je le bascule vers mon esprit juste, je vais trouver une sorte de réserve de plénitude et de tranquillité, une perception tellement différente, un ressenti tellement différent, que je ne vais plus avoir l'impression de vivre dans le monde de la même façon. Le monde ne va pas m'atteindre. C'est pour ça que ces grands sages ont l'air, on sait qu'ils habitent dans le monde, mais on n'a pas l'impression que le monde les atteigne. Les atteint. On n'a pas cette impression qu'ils sont sensibles au monde de la même façon. Ce n'est pas qu'ils planent. Ils sont avec vous, ils sont là, présents. Mais c'est qu'ils ne sont pas affectés par toutes les choses qui nous bafouent, nous.
C'est pas la situation qui crée. Enfin, c'est la perception de la situation qui crée une émotion.
Enfin, exactement.
Une émotion négative.
Exactement.
Et suivant l'interprétation qu'on fait de la situation, qui n'a pas bougé, on va passer d'un côté ou de l'autre. C'est une douleur ou rien du tout.
C'est exactement ça. Ouais. C'est une prise de conscience importante, c'est que en fait, c'est ma perception qui me rend malheureux dans cette situation. C'est le retournement principal, primordial, sur lequel le travail du cours est basé. C'est de nous rappeler ce qui est véritablement en train de se passer. Parce que notre esprit faux, qui est tellement fort, nous dit tous les jours. C'est le monde qui crée ma perception, c'est le monde qui crée mon expérience. Je suis malheureux à cause du monde. Et or, c'est un système de pensée et il n'est pas juste. Et ce qui est juste, c'est que c'est ma perception qui est basée sur mes convictions, mes croyances, sur la partie de mon esprit que j'accède, qui est basée entièrement sur ma conception de moi-même. Soit je suis vulnérable et petit parce que je suis totalement séparé d'une source d'amour, ou soit je suis entièrement toujours dans ma grande force et dans une sorte d'invulnérabilité parce que je suis joint et uni avec cette magnifique présence d'amour. Basé sur cette décision-là, qui suis-je? Ceci va déterminer entièrement mon expérience de la vie et pas l'inverse. Et si nous pouvons avoir ne serait-ce qu'un petit brin de cette perception, cette idée qu'effectivement, j'y suis pour quelque chose. Ce n'est pas juste un automatisme, ce n'est pas juste le monde qui est en train de m'affecter. J'y suis pour quelque chose. C'est tout le but de l'exercice aujourd'hui. Voilà ce que le salut signifie. Le salut, c'est le mot dans le langage chrétien du cours pour parler de l'éveil. Voilà ce que l'idée de l'éveil signifie. Car où est le monde que tu vois une fois que sa cause disparue? Une fois que nous avons enlevé notre envie de voir un monde qui me fait souffrir, le monde va avoir beaucoup moins de substance pour moi, va avoir beaucoup moins d'importance pour moi. Au point qu'on a l'impression que ces grands sages éveillés, ils vivent à peine dans ce monde, ils sont dans ce monde pratiquement parlant, logistiquement, ils se lèvent et tout ça, mais c'est comme s'ils vivent en même temps dans un autre monde. Ce monde n'est pas réel pour eux de la même façon que c'est réel pour moi. Ils ont vu à travers l'illusion de ce monde, parce qu'ils ont enlevé leur insistance qu'ils sont victimes de ce monde, qu'ils sont dans leur petite identité. Voilà. La vision, ce qui est le mot dans le cours pour notre esprit juste, la façon que nous regardons à partir de la justesse d'esprit, où on peut aussi parler d'une écoute juste, la vision contient déjà le remplacement de tout ce que tu penses voir maintenant. La beauté peut éclairer tes images et les transformer au point que tu les aimeras, même si c'est de haine qu'elles ont été faites. Les images, c'est simplement les circonstances de nos vies, les choses que très souvent on ne peut pas trop changer. Les images ne changent pas. Les images, souvent, ont été créées à partir d'une motivation haineuse chez nous, une motivation de haine contre nous. C'est pour ça que nous nous mettons des fois dans des situations très difficiles. Ce n'est pas parce qu'on a eu une pensée bienveillante à son propre regard, mais parce que, à un niveau très très profond, on a senti des fois le besoin de se voir victime, le besoin d'une punition. Ça, c'est pour renforcer une situation de vulnérabilité, de petitude, de petite identité. La beauté peut éclairer tes images. D'accord ? Cette magnifique présence qui se trouve quelque part juste derrière cette voile que nous ne voyons pas peut éclairer nos images. Il n'a pas dit « peut changer nos images ». Parfois, les images, les circonstances de nos vies ne vont pas changer. Mais par contre, nous allons avoir une expérience entièrement différente. Des mêmes personnes qui nous enquiquinent. Des mêmes personnes qui nous agressent, qui nous attaquent. Quand on prend du recul, on va voir une sorte d'éclairage de beauté derrière. Au point que tu les aimeras. Tu aimeras même ces gens-là qui vous enquiquinent le plus. Vous allez ressentir de l'amour à la place de la haine ou de la colère, même pour les gens qui sont des fois en situation de nous attaquer. L'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu n'es pas emprisonné dans le monde que tu vois, parce que sa cause peut être changée. Okay, nous avons parlé de cause déjà. Vous n'êtes pas emprisonné dans ce monde. On ne parle pas des circonstances, on parle de notre perception du monde. Parce qu'on n'est pas emprisonné par nos circonstances, parce qu'on n'est pas en train de réagir par rapport à nos circonstances. On est en train de réagir par notre perception de la situation. Donc on peut être libéré de notre perception de ce monde. Ce changement requiert d'abord que la cause soit identifiée, puis lâchée, afin qu'elle puisse être remplacée. Ici, en fait, c'est la base de toute la série de stages que nous sommes en train de faire. Kenneth Wapnick a parlé des trois étapes du pardon, qui viennent de cette ligne ici, dans la leçon 23, et sur laquelle j'ai ajouté trois étapes de plus, parce qu'il parle aussi d'autres nuances sur ce processus de pardon. Donc, je les ai inclus comme les autres étapes. Ce changement requiert d'abord que la cause soit identifiée, ce que nous sommes en train de faire pendant quasiment les deux premières étapes. Quoi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi ? Pourquoi c'est en train de se passer ? On identifie vraiment la cause de notre expérience dans cette vie ici. Qu'elle soit identifiée puis lâchée. Ça, c'est dans les trois étapes, c'est la deuxième étape, les puis lâchées. Ça veut dire qu'une fois que nous identifions vraiment ce qui est en train de se passer, la question va se poser, est-ce que j'ai envie de garder toutes mes perceptions? Est-ce que j'ai envie de garder tout ce qui est dans mon esprit par rapport à ça? Et à un moment très clair, on va dire, ben non, c'est évident. Et pour nous, cette étape-là correspond aux étapes 3, 4 et 5. La prochaine fois, aujourd'hui c'est pourquoi la prochaine fois nous allons parler du coup. Après nous allons parler de similitude et la cinquième étape c'est choix. Et le choix, avant de pouvoir vraiment faire ce choix, on a besoin de savoir plus sur le coût, le prix que nous payons pour garder notre perception. Et la similitude c'est ce que nous sommes en train d'occulter. Quand nous sommes dans l'esprit faux et nous sommes en train toujours d'insister que l'autre est le vrai salaud dans ma vie. Et ce n'est pas moi le salaud. Nous sommes en train d'occulter quelque chose, déjà un prix très important que je suis en train de payer, et aussi une autre qualité que je partage avec l'autre. Nous sommes tous les deux un salaud, mais nous sommes tous les deux aussi un enfant du Christ, un enfant de Dieu. parce que nous avons tous les deux un esprit faux. Donc, tout le processus de tout ce que nous sommes en train de faire est dans cette phrase-là. Les deux premiers pas dans cette démarche requièrent ta coopération, pas le dernier pas. Le dernier pas, c'est quand nous nous joignons, nous nous unissons avec une présence d'amour. Une fois que, et ça c'est notre sixième étape, que nous, j'ai appelé par plusieurs différentes phrases, mais accompagnement ou guide ou gentillesse avec un G majuscule. L'instant que nous nous tournons vers la présence d'amour dans notre esprit, et à ce moment-là, nous allons voir que tout a déjà été pardonné. C'est pour ça qu'il dit, nous ne faisons pas la dernière étape. Nous n'avons que nous rejoindre avec la présence de l'amour et nous allons voir que tous les maux et toutes les blessures ont déjà été enlevés. Tous les jugements, toutes les attaques. Il n'y a plus d'effet de ceci. Tes images ont déjà été remplacées. Tes images d'attaques et de blessures ont déjà été remplacées par la guérison et la beauté. En faisant ces différents pas, les deux premiers pas, tu verras qu'il en est ainsi. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la petite lecture du cours. Maintenant, regardons ce que vous avez fait pendant vos petits groupes. Comment ça se passe? On va lire les questions ensemble. Pensons toujours à votre situation de gêne et de contrariété. Partie numéro 1. Validation d'une perception des autres et du monde. Qui m'a fait mal ici? Qui m'a enlevé l'amour? Qui est responsable pour l'absence de paix et le sens du bien-être dans ma vie? Ce qui est toujours notre première réaction dans une situation de colère ou de contrariété. Sur la surface des choses, ma perception ordinaire m'explique automatiquement d'où vient cette gêne. C'est toujours une situation extérieure qui me gêne, quelque chose dans le monde, chez les autres ou dans ce corps. Notez ici ce que vous considérez comme responsable pour votre manque de paix et de bien-être. Qui a eu du mal avec cette phase-là? Personne. Ça c'est voilà, la partie la plus facile. Ce qui est curieux, c'est intéressant, c'est à quel point en fait nous sommes identifiés avec le système de pensée qui dit j'ai aucun mal à trouver les salauds dans ma vie. Les gens, j'ai aucun mal, vraiment pas le moindre mal à trouver les méchants, les gens qui devraient ou qui auraient dû faire différemment, qui devraient être plus gentils envers moi. Qui n'ont pas respecté les règles, qui sont complètement inconscients. Hein. Voilà. Les règles que moi j'ai fait d'ailleurs. Ou les règles pour les gens bien. Et s'ils ne suivent pas les règles, alors c'est assez évident. ok, petite question. Oui.
Tu nous as raconté ton histoire avec tes voisins. Et ça m'a vraiment choqué parce que c'est quand même fort. Et que tu as pendant 3 ans. Alors, est-ce que tu veux bien raconter vite parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, je me dis, un être qui est dans l'unité. Dans le juste, comment peut-il qu'il peut penser, réagir, ressentir
face
dans une
telle situation? D'accord. Et évidemment, c'est une situation de grandes difficultés où les gens ont été particulièrement injustes, voire agressifs avec toi, j'imagine. Et la question, c'est comment possiblement être vraiment continuer dans un esprit de paix et de compassion quand on est peut-être injustement attaqué, des fois à répétition. C'est l'énorme question que toute cette existence pose. Mais pour une raison, c'est la question derrière tout. Toute cette vie, toute existence ici est basée sur l'idée qu'il y a des situations qui écartent la présence de l'amour définitivement. C'est pour ça qu'on a fait le Big Bang. Le Big Bang est une déclaration que l'amour du ciel est brisé. Nous avons fabriqué tout ce monde maintenant et nous sommes à l'affût d'entendre, d'apprendre sur les situations où, qui sont impossibles à pardonner, où c'est impossible que le pardon ou l'amour puisse exister. Nous sommes à l'affût, nous mettons la radio, nous mettons la télé, nous regardons la dernière page du journal avant la première page du journal. Parce que souvent, les pires histoires, les plus courtes, sont sur la dernière page du journal. N'est-ce pas? Nous sommes à l'affût, nous voulons voir les situations où nous allons faire systématiquement une histoire après l'autre. C'est horrible, c'est impossible, l'amour ne peut pas possiblement être présent dans une telle situation. Les bébés qui sont meurtris, assassinés, qui sont laissés abandonnés, les petites filles violées, torturées, mais à l'infini, les voisins qui nous font des torts, et nous faisons quasiment une liste de toutes les différentes histoires où l'amour est brisé. C'est l'objectif de ce monde, c'est l'objectif du système de pensée de l'ego. C'est ça, c'est sa programmation la plus fondamentale, c'est de prouver définitivement que l'amour du ciel est brisé, l'amour du Christ, l'ensemble, ça, c'est impossible que ça existe toujours. Et les autres questions sont là pour nous aider à savoir pourquoi nous sommes tellement motivés pour trouver que c'est ainsi, pour prouver que le monde est vraiment un désastre et que nous sommes les victimes. Il y a des victimes véritables dans ce monde, des victimes malheureuses qui n'y sont pour rien du tout. C'est ça la programmation la plus profonde du système de pensée ici. Et il faut que vous soyez très très vigilants pour regarder les traces de ce système de pensée chez vous. Nous l'avons tous. Parce que si ça vous préoccupe sans que vous le sachiez, si ça vous préoccupe, vous allez trouver les victimes, non pas là-bas, mais ici. Vous serez la prochaine victime. Nous sommes à l'affût des victimes. Et si nous continuons avec ce système de pensée, la prochaine victime, ça sera moi. Parce que ce monde est injuste, c'est brutal, ça ne respecte pas les règles. Ça s'en fiche, ce monde s'en fout complètement de ceux qui sont bien de ceux qui sont bien, ceux qui méritent l'amour. Ce monde s'en fiche complètement, ceux qui sont innocents. Les enfants, les petits, les jeunes filles.
Alors, est-ce que ça provoquera un retournement de la situation mondiale, s'il y a de plus en plus de gens qui ont appris que c'est le fait, ou est-ce que ça nous fera basculer dans une autre dimension? Pendant un moment, j'ai flotté dans ce truc-là. Oui. Voilà, je me retrouvais dans une quatrième dimension avec ça et voilà.
D'accord. Une très bonne question. Est-ce qu'à force de faire tout ceci, si la moitié de la planète faisait ce retournement de pensée, est-ce qu'on va voir un effet à l'extérieur, ou est-ce que c'est purement que chaque personne entre dans une autre sorte de dimension? On ne peut pas dire qu'il va se produire forcément des changements à l'extérieur. On ne peut pas dire. Voilà, c'est impossible à dire. Et ce n'est pas vraiment l'essentiel de l'histoire. L'essentiel, par exemple, je ne sais pas si c'était dans ce groupe-là, essayez d'imaginer le perspective du plus grand sage ou des plus grandes sages. Est-ce que ces grandes sages sont à l'attente d'un grand changement mondial?
Moi, j'ai l'impression que c'est un but sous-jacent, quoi. Par exemple, dans la méditation, on dit s'il y a 1% de gens qui méditent, ça diminue la violence.
Le centième singe.
Plus il y a de méditants, plus il y a de du compte, ça diminuera.
Un peu le centième singe, l'idée c'est que si suffisamment de personnes, après une X pourcentage de personnes, le monde va basculer, ce genre d'idée. D'abord, l'idée du centième singe, la théorie du centième singe, le 100 monkey idea, a été désapprouvée, remise en question. Voilà. Oui. Ce n'est pas clair que l'histoire s'est produite vraiment telle que. Mais l'idée est très très attirante à l'ego, pour deux raisons. D'abord, on peut avoir un effet dans ce monde, et c'est ici où que nous cherchons un effet. C'est-à-dire, si moi j'ai fait quelque chose, ça peut avoir un effet sur d'autres gens. Déjà, ça rend très réel ce monde ici, comme si ce que nous cherchons à pratiquer, c'est une guérison du monde. Or, ce que nous cherchons en vérité, c'est une guérison de l'esprit. Ce n'est pas parce que nous voyons les gens arrêter de se battre, ce qui est déjà bien, qu'il y a déjà la paix et l'harmonie chez les gens. Il n'y a pas de guerre en France. Mais ça ne veut pas dire que les gens s'aiment. Okay? Donc c'est extrêmement difficile à dire par les apparences qu'il y a eu vraie guérison ou non. C'est extrêmement difficile. Mais de toute façon, le point essentiel ici, c'est qu'il n'y a pas de guérison dans le monde. La guérison est toujours dans l'esprit des gens, en chacun. Et nous n'attendons pas à ce que les autres guérissent. Nous attendons uniquement que nous nous guérissons. Voilà. C'est notre propre état d'esprit qui nous intéresse, et l'état d'esprit des autres, on n'a aucun pouvoir dessus. On propose en habitant cette philosophie, en vivant pour nous-mêmes, en éprouvant sa véracité, que choisir l'amour à la place de la peur et la haine, c'est mieux. Voilà. À savoir que ça entraîne beaucoup de travail et beaucoup d'idées derrière. L'autre idée, que ce n'est pas une bonne idée de penser en termes de sentier un singe et pourcentage et tout ça, c'est qu'on a l'impression que je n'ai qu'à attendre à ce que les autres atteignent l'état d'éveil et d'amour, et voilà, je serai basculé automatiquement de toute façon. Si moi je le fais, ma mère, elle n'a pas besoin de faire le travail, ça roule pour elle. D'accord, ça marche pas. Voilà.
Si tu me payes assez, je peux le faire pour toi.
Oui. C'est pas mère portante, c'est éveil portant.
Non, mais avec un peu de temps.
Si on pouvait payer les autres, imagine le prix. Ce genre de choses, ou ce qu'on voit très, très, très souvent, c'est que les gens qui essaient de s'associer avec des gens éveillés, mais à rester collés à leur basket. Alors, c'est ça. Quasiment pour essayer d'avoir une sorte d'éveil par osmose. Avec l'idée que, voilà, ça va, si je me frotte assez à ces gens-là, je serai purifié. Chacun doit faire un seul travail de purification de ses pensées, de se poser la question chaque fois qu'il a une réaction, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux? Nous devons tous faire ce travail, et je vous promets, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, ce qui se passe dans la vie de Yona, c'est ce qui se passe dans la vie de chacun, à un niveau ou à un autre. Nous allons essayer de voir, je pourrais répondre très vite à la question, est-ce que c'est possible de retrouver la paix dans une situation telle que Yona a vécu? Et on peut dire que, bien sûr, à un certain niveau, c'est possible. C'est possible. Il y a un endroit, un refuge d'amour profond, pas simplement dans la situation, mais également pour ces gens qui peuvent être même de la plus grande égoïsme, de la plus grande méchanceté. Et il suffit de voir les gens qui ont vécu dans des camps de concentration, les témoignages de certaines personnes très rares qui ont vécu dans les camps de concentration, qui ont pu éprouver un amour pour les gens qui les ont... meurtrier leur famille, les torturer. Ils arrivent à voir au-delà de l'agression des autres pour voir quelque chose qui se passe sur un arrière-plan. Ce que nous essayons de faire pendant ces séries d'ateliers, quand nous voyons les étapes de coup, similitude, choix, et ceci, cela, cette étape-là, c'est pour savoir que, sous-entendu, sans le savoir, nous avons une énorme motivation qui vient d'en dessous, pour nous voir victimes et pour voir les autres comme les salauds. C'est le voile d'inconscience que nous essayons d'enlever aujourd'hui pendant cette étape-là. C'est voir encore, enlever encore une couvercle sur l'inconscient pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Pourquoi je passe ma vie à me sentir affecté par les choses, susceptible, sensible? Pourquoi j'ai plus envie. J'ai envie de planer au-dessus, j'ai envie d'être plus en recul par rapport à tout ça, pour pour faire ça, il faut qu'on on regarde ce que nous avons enseveli déjà. Donc, je ne réponds pas directement à la question en regardant exactement les circonstances, ce que nous pouvons faire, mais pour une question de maîtrise du temps, là, je préfère juste qu'on avance. Mais si on a du temps à la fin, on va revenir sur la situation. OK? Maintenant, ça commence à être plus intéressant et je vous assure que cette étape-là n'est pas facile. D'accord? Cette étape-là est vraiment, vraiment pas facile. C'est peut-être l'étape la plus dure. C'est quand nous voyons qu'inconsciemment, nous cherchons les situations d'abus et de maltraitance et d'injustice. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui veut dire que les victimes dans le monde, puisque nous sommes un, nous avons tous un esprit juste, un esprit faux, les victimes dans le monde sont aussi à l'affût des situations d'abus et de maltraitance, sans le savoir. Je ne parle pas simplement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Totalement dans l'inconscient. Totalement dans l'inconscient. C'est la programmation de notre présence sur Terre. Pour venir dans un état d'individualité, nous avons dû accepter une séparation psychologique avec notre réalité qui baigne dans l'amour, qui est unie, totalement unie dans l'amour. Le fait de venir ici veut dire que malgré l'apparence d'un bébé ou d'un jeune enfant, de toute l'innocence que ça comporte, forcément cet être individualisé contient un esprit divisé, un esprit juste et un esprit faux, aussi puissant que chez un adulte. Je dis pas une personnalité.
Mais de l'extérieur, on laisse faire ?
Non, non, c'est jamais une recette pour un comportement. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire ici ne vous donne pas une indication de comportement. Nous disons juste que quand nous comprenons mieux le fonctionnement de notre esprit, et ceci va nous aider à basculer vers un esprit d'amour et en dehors d'un esprit d'attaque, au lieu de rester dans un esprit de jugement et d'attaque, ça nous aide à basculer vers un esprit d'amour. Une fois que nous faisons cette étape, nous serons en meilleure mesure de savoir ce que nous devons faire, qui sera utile. Il y a un autre rideau aussi là-bas. Ce n'est pas une recette pour un comportement, c'est une recette pour basculer d'un esprit de souffrance vers un esprit d'apaisement, d'un esprit d'attaque vers un esprit plus tranquille, en recul. À ce moment-là, quand on a vu notre tendance et notre envie inconsciente de rentrer dans la bataille, que nous disons non, je n'ai pas envie. Il doit avoir une autre voie, comme ils ont dit tout au début de l'écriture de ces livres, Helen Chapman et Bill Thetford. Il doit en avoir une autre façon de faire maintenant. Je n'ai plus envie de rentrer dans la bataille comme j'ai toujours fait. Faisons différemment. À ce moment-là, je trouverai une meilleure réponse à la situation. C'est ça. Et à ce moment-là, vous risquez de trouver le comportement qui convient mieux à la situation. Et vous allez faire avec plus de confiance. Vous serez moins affecté par les autres, vous serez plus en mesure de les affronter, les confronter, de mettre votre point de vue, d'articuler votre point de vue d'une autre façon, sans les agresser, sans les attaquer. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que vous avez basculé votre point de perception, votre cadre de référence pour la situation, vous avez changé entièrement. Ce n'est juste une pommade. C'est travail vraiment fondamental. Donc, partie numéro 2, validation d'une perception de moi. Je suis en colère, triste, frustré, j'ai peur, je ne suis pas en paix, ce n'est pas ma faute. C'est le point de départ de notre esprit faux. Je suis comme je suis dans cet état de désarroi et ce n'est pas ma faute. J'ai une certaine perception de moi-même dans cette situation comme blessé, victime. Est-ce que je suis capable d'apercevoir comment cette contrariété semble valider cette perception de moi? Je vois un tort à l'extérieur et je me vois blessé à l'intérieur. mon expérience semble être en accord avec cette perception des choses. Vous avez vu quelque chose dans vos groupes par rapport à cet état? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à voir cette nuance que nous sommes en train d'ajouter là? C'est-à-dire que on peut tous voir facilement que voilà, oui, mais je me sens en colère et tout ça. Mais est-ce qu'on voit que ça, c'est une perception que j'ai eue de moi-même? C'est-à-dire, on essaie de mettre la phrase là qui est en italique dans le bocal du poisson rouge et le regarder et dire oui, c'est une perception que j'ai de moi-même. C'est ce que je ressens, ça semble ma réalité, mais en fait, c'est une perception que j'ai de moi-même que je suis en colère, que je suis victime, que je suis blessé, que ceci, cela. C'est plus subtil, c'est plus subtil maintenant. Ça essaie de créer une certaine distance pour qu'on commence à se voir faire. Voilà, de vous mettre ces questions-là, c'est pour vous mettre dans la place de l'observateur. De vous faire observer comme si vous n'êtes plus tout à fait juste dans l'action de la situation. Vous êtes en train de vous voir dans la situation, la façon que vous êtes en train de réfléchir. Et c'est toujours l'idée pour cette personne-là qui est blessée, c'est toujours qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur et la réaction semble être à l'intérieur. Bon, s'il n'y avait pas de commentaires, on va directement sur le troisième qui est vraiment le plus parlant.
Je trouve que là, c'est difficile à voir à nous-mêmes.
Oui.
Mais c'est plus facile à voir à l'autre.
Intéressant, oui. Les autres, on le voit chez les autres qu'eux, ils se voient victimes. Et pour nous, en voir, ils ont fait tout un cinéma, tout un théâtre quasiment, de se voir victimes. Mais dès que notre attention retourne vers nous, on a plus de mal à voir que je suis en train de me voir victime. Ce n'est pas que je ne suis pas forcément victime. J'ai l'impression que c'est véridique. Peut-être aux yeux de notre personne, ça semble plutôt juste, il se voit victime.
C'est ça. Quand il y a une dispute, par exemple, ou un désaccord pour quoi que ce soit, chacun des deux est victime de l'autre. Mais tous les deux prétendent avoir raison. Alors que tous les deux ont tort. Mais vu l'image là-bas, moi je la vois.
Oui.
Mais quand j'y suis moi là-bas, je me vois moins. Peut-être que je ne veux pas me voir.
Non, c'est très bien dit, effectivement, oui. J'ai pas pensé qu'effectivement c'est plus facile à voir. Je dois peut-être ajouter ça. Si on a du mal à voir pour soi-même, qu'on pense aux autres. Et après avoir fait cet exercice, on le retourne vers soi.
Moi, c'est comme ça que je vois la chose.
Ah oui. Est-ce qu'aux yeux d'une autre personne, est-ce qu'eux, ils constateraient que je me mets en position de victime?
En fait, quand il y a une dispute entre deux personnes, c'est souvent une querelle d'ego, vous voyez. Et ce qu'on pourrait assigner à l'esprit faux. Donc, puisqu'on est dans l'esprit faux, on ne peut pas avoir l'esprit juste qui nous permettrait d'analyser la situation, puisqu'on est pris par l'autre partie. C'est pour ça que c'est plus facile quand on est à l'extérieur, qu'on n'a rien.
Ouais.
On n'a pas d'enjeu là-dedans, on est observateur uniquement. C'est pour ça que je parlais d'observateur de soi, qui est intéressant, mais qui n'est pas facile à
l'esprit,
et qui est plus facile à l'esprit. Parce que nous, en étant serein dans notre camp, dans notre coin, je veux dire, on regarde la situation, et on peut l'analyser comment, tranquillement, puisqu'on n'a rien à perdre, rien à gagner.
C'est pour ça qu'on vous offre ces opportunités de venir et regarder tout ce qui se passe, parce que des fois on est happé, on est entraîné dans la situation elle-même, et à l'instant qu'il se produit une engueulade, on est trop proche, on peut pas. Ce qui se passe en fait, à force de faire ces exercices, de pratiquer ces exercices, il y a un laps de temps entre quand l'événement se produit et la réflexion sur la situation.
C'est ça.
Et à force de quand on fait la réflexion, on dit oh, je me sens plus soulagé par rapport à ça maintenant que je le déficèle, je le décortique. Ce soulagement, on a envie de l'approcher de plus en plus au moment des fêtes. Donc, la prochaine fois qu'il se produit un événement douloureux, on ne va pas attendre 2-3 semaines avant de faire l'exercice de le décortiquer. On va attendre la prochaine fois 2 semaines ou 1 semaine. Ou 3 jours. Au fur et à mesure, on rapproche le moment de les décortiquer et dire j'ai eu tort, on a eu tort tous les deux. On a eu tous les deux, on était dans notre image de vulnérabilité, d'individualité, chacun a ses besoins, chacun, les besoins de chacun sont en conflit avec les besoins des autres. Je ne vois aucun intérêt partagé, je me vois avec des intérêts séparés en conflit. Je fais tout ça, je décortique et je sens le soulagement après quand je bascule. Et alors, à force, et Kenneth le dit souvent, on sait qu'on fait du progrès avec ce cours, quand le moment que je le décortique et le moment qui se produit les fêtes se rapproche. Le laps de temps se diminue. Ça veut dire que j'ai plus envie de rester avec cette amertume, avec cette grief, avec cette rancune. Je veux le défaire. Je veux avoir tort au lieu d'avoir raison.
Et en fait, quand c'est comme ça, celui qui avoue avoir tort, l'autre qui est en face, lui, il avoue lui aussi avoir tort. Parce qu'une dispute ou un désaccord n'arrive jamais que d'une personne. Moi, je vous dis que ça, c'est Rose, vous allez me dire, ben non, c'est moi. Ah ben non, attends, mais c'est Rose, je veux le voir.
Non, c'est Rose.
Et puis de là, ça part, hein. Et puis, une fois fini.
Dans la philosophie du cours, c'est plutôt, toi, tu le vois vert et moi, je le vois marron.
Oui.
D'accord,
oui.
C'est Rose. C'est-à-dire, on a tous les deux tort. Mais c'est essentiel, c'est que des fois, dans une situation, quelqu'un a littéralement raison sur une situation ou une meilleure perspective. Le point de vue du cours, c'est que nous avons tort dans le sens que si chacun est investi, il a tort. Parce qu'il pense que son bonheur, sa survie, il pense que la source d'amour vient du fait d'avoir raison.
C'est ça.
Il a remplacé toute l'éternité offerte par Dieu, il a remplacé tout ça par le besoin d'avoir raison. Et on assassine le ciel, on assassine Jésus, Marie, tous les saints ensemble, on assassine tous qui nous offrent leur amour pour pouvoir avoir raison. Et c'est parce que l'individu existe, parce qu'il a raison, surtout, sur tous les plans. Donc il insiste toujours qu'il a raison. Il faut avoir de la compassion. Pour les gens comme ça, il faut avoir la compassion parce qu'ils pensent que c'est la survie psychologique pour eux d'avoir raison. C'est une condition de souffrance et de solitude et de peur, immense peur, d'avoir tort.
Mais pour autant, comment faut-il agir devant le fait accompli?
On a tous tort. Il a tort, j'ai tort. Ça va vous aider énormément tout de suite. Parce que l'amour a raison. Il n'y a que l'amour qui a raison. Et si jamais vous arrivez à vous dire ça à l'instant qu'il se produit une sorte d'engueulade comme ça, vous allez ressentir tout de suite une sorte de soulagement qui dit, de toute façon, je n'avais pas besoin ou même envie de gagner ça. J'avais envie d'amour. Et à ce moment-là, vous avez échangé votre besoin d'avoir raison ou de gagner, ce qui est toujours juste un gain pour l'individualité, vous avez remplacé ça avec votre envie de retourner vers l'amour. Et après, une fois que vous vous mettez de côté de l'amour, vous allez ressentir, et la compassion, vous allez ressentir quelque chose que vous pouvez dire qui va dégager la situation, débloquer la situation. Parce que le problème n'était jamais, la personne s'en fichait s'il avait raison. Il voulait y avoir raison, tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Il voulait avoir raison parce qu'il pensait qu'il avait fait un ennemi de l'amour. Maintenant, il doit renforcer. Il pense qu'il doit survivre en dehors de l'amour, hein, à continuer comme une machine à dire mais j'ai raison partout. Les autres, c'est les cons. Hein, il n'y a que moi qui a raison. Parce qu'il a pris tellement peur de l'amour. Maintenant, et sur la bicyclette, il faut continuer à pédaler. Si toi, tu te mets à côté de lui et tu es juste une présence d'amour qui dit « Tu peux avoir raison autant que tu veux, je vais t'aimer. » À ce moment-là, il s'arrête parce qu'il dit « Waouh, là, il y a quelque chose qui a complètement coupé à travers tout. J'ai vu quelqu'un qui n'avait pas besoin d'avoir tort, qui n'avait pas besoin d'avoir raison, qui était juste bien. » Et c'est comme si une ampoule s'éclaire dans son cerveau, son esprit, qui dit, peut-être moi aussi, je n'ai pas besoin de pédaler autant, je peux juste me reposer là un instant et dire, ça va, c'est pas si grave si j'ai pas raison là. C'est délicat, mais ça peut se faire et ça vaut la peine d'essayer. Essayez juste de vous dire, j'ai été longtemps dans une relation comme ça. Et ma foi, la seule chose qui a pu me sauver, c'était de savoir que de toute façon, avoir raison, ce n'était jamais ça qui m'intéressait. Ce n'était jamais ça qui était en jeu.
Il faut arriver à le comprendre, ça. Et à l'accepter.
Oui. Plutôt, oui. C'est le but, c'est de savoir toujours que tu veux ressentir l'amour. C'est tout. On veut avoir un souvenir d'amour. Avoir raison, avoir tort et tout ça. Faire ce que toi tu veux faire et faire ce que toi tu pensais est juste pour vous dans votre couple ou dans votre partenariat ou votre situation de travail. Ce n'est pas ça qui vous intéresse vraiment le plus. À la limite, faire ce que l'autre veut faire, même si il a tort sur tous les plans économiques, sur tous les plans de marketing, sur tous les plans d'une bonne gestion d'entreprise ou de couple, à la limite, vous allez faire avec une tranquillité énorme si vous savez que vous faites avec l'esprit d'amour. Ce n'est pas avoir la meilleure gestion d'entreprise ou la meilleure gestion de couple qui est le plus important dans la vie. Ce n'est pas ça que vous allez emporter avec vous au ciel. J'ai eu raison, voilà, quand j'arrive au paradis, et tu vas faire une liste de là, mais j'ai gagné là, parce que de toute façon c'était évident, moi j'ai eu raison, et là on a eu une bonne gestion du couple, on a pu gagner là, j'ai bien vendu au bon moment la maison, j'ai pas cédé aux besoins de mon époux pour garder la maison, hein. Non, hein. Là on a bien vendu, oui par la suite on est divorcé, oui d'accord. Mais j'ai eu raison quand même, parce que le marché s'est écroulé après. Hein. On aurait eu 70 000 euros de moins sur la maison. Punaise, non mais ça se... Oh.
Et quand la phrase « je suis en colère, triste, frustré, j'ai peur », quand on a tout ça, obligatoirement, c'est qu'on est victime.
On sait très vite quand on est victime, quand on ne ressent pas l'amour.
C'est-à-dire tout le reste, enfin, je veux dire, il n'y a que quand on est dans l'amour qu'on n'est pas victime.
Oui.
C'est clair.
C'est uniquement quand on est dans l'amour, quand on n'est pas victime, je suis désolée, mais oui, ça vous déçoit.
Je croyais que la colère, c'était un petit peu...
Il y a un aspect de colère dans l'amour. L'amour peut inclure un peu de colère. Non. Brièvement, tu ne c'était pas un coup de colère, c'est un coup d'amour. Hein. Si tu comprends ça, bah bordel, tout le monde peut comprendre. C'était l'amour que j'ai balancé. Oh là 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 là, mais il comprend rien, quelqu'un. Ah, c'est pas tout à fait ça, non. Non. Des fois, aider quelqu'un à recadrer son esprit juste. En étant ferme avec la personne, même en criant, par exemple, sur un enfant qui a 5 ans, en levant la voix, ça peut sembler la colère des fois, pour percer à travers l'esprit fou de quelqu'un qui est dans un délire d'esprit fou. On a vu les gens, petits ou grands, faire des caprices. Une caprice veut dire... Je veux que ça soit ainsi et pas autrement, et tout le monde et l'existence et Dieu et Jésus et les saints et tout le monde va se plier à moi et c'est comme ça et pas autrement. Ça c'est un bon coup d'esprit faux. Des fois, à un moment, surtout quand c'est vraiment pas dans le vrai intérêt de la personne, il faut couper à travers ça. Donc, parler d'un ton très fort ou faire des gestes abrupts pour couper à travers ça, ça peut sembler la colère.
Moi, je parlais de la colère quand on est en colère. Mais toute seule, quoi.
Vas-y, Patricia, tu gagnerais. Tu vas défendre ta position, tu vas avoir raison si tu veux.
Je suis sûre de soulager 5 minutes,
après
on revient.
Ah non, il n'y a jamais de péché. C'est-à-dire, si tu piques une engueulade,
Victime. Moi, c'est par rapport à la victime. La victime, quand on se sent en colère. Et qu'on est victime, c'était ça qui me... l'association d'être en colère, c'est être victime.
Impuissant.
C'est-à-dire, si on peut piquer une...
Peut-être victime d'une injustice.
Non, mais peu importe de quoi, mais c'est la position, quoi. Si t'es en colère, c'est que c'est ce que je traduis.
L'instant que tu remets ton esprit, ton attention vers un endroit d'amour et tu prends du recul de la situation, tu ne peux pas être en colère. C'est une impossibilité. La colère est une façon de... C'est une attaque. C'est une façon de dire « Tu m'as blessé. Je ne suis plus dans l'amour et c'est ta faute. » Mais à l'instant que tu reviens, ton attention revient vers l'amour et tu ressens la présence à côté de toi. Le cours, on n'est pas encore entré dans la spiritualité profonde du cours. Mais le cours utilise le symbole de Jésus, plutôt la personne ou la présence de Jésus, beaucoup. C'est d'une aide énorme. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, c'est le Jésus biblique, mais pas le Jésus qui juge de la Bible ou qui exclut du tout. C'est qu'une présence d'amour. C'est pour ça que nous disons, si le mot Jésus ne vous convient pas, trouvez un autre symbole d'amour qui n'est pas vous-même, mais qui est en vous, qui vous accompagne. Il faut que vous vous trouviez. On peut faire ce chemin uniquement si on est accompagné par une vraie présence d'amour, n'importe comment vous l'appelez. C'est pour ça que c'est tellement utile. C'est à des moments, comme quand on est tenté de vraiment piquer une gueulade, qu'on essaie de se dire, c'est pas ça vraiment que j'ai envie de faire, parce que ça va pas contribuer à la situation. On essaie de se retourner vers cette présence d'amour. Et à ce moment-là, quand on ressent l'amour, on sent que la blessure n'est pas ce qu'on a pensé. On pensait que l'autre nous a enlevé la présence de l'amour, or, c'est juste à côté de moi. Donc, il n'a pas pu faire ce que j'ai pensé qu'il a fait. Il m'a fait des choses et tout ça, mais pour se sentir blessé, je dois me sortir d'abord de l'amour dans une position de vulnérabilité. Donc, c'est pour ça que les deux ne sont pas compatibles. Ouais. Ça ne veut pas dire que... des fois, il est arrivé, je ne me souviens pas, si par exemple, vous piquez une gueulade... Et c'est juste une cri d'aide. Ça peut aussi venir de votre esprit juste, c'est-à-dire votre esprit juste est en train de dire, j'ai pas envie de crier sur toi comme une attaque. Je crie parce que je ne ressens plus l'amour. C'est une cri après l'amour pour l'aide. Quasiment que tu exprimes comme ça. À ce moment-là, ce qui semble une cri de colère peut être capté par l'autre comme un cri à l'aide, selon l'esprit de l'autre personne. On ne sait pas. Il peut aussi le capter comme encore un xième affront. Mais il a plus de chances de le capter bien et dire « Ah, je t'écoute, je t'entends. Maintenant, je sais que tu es souffrant, tu es vraiment gêné par ça. Ça te gêne profondément, je ne le savais pas. Je suis désolé. » C'est pour ça, c'est l'apparence, c'est tellement difficile de juger l'apparence de quelque chose. Quelqu'un crie, qui hurle, ça semble une caprice même, on ne sait pas. Ça peut être un cri à l'aide. Et le cours nous dit, c'est une règle d'or, que on a un choix entre deux interprétations du comportement de notre personne. Soit c'est une expression de l'amour, soit c'est un appel à l'amour, un appel à l'aide. Soit la personne est, parce qu'on n'a qu'un esprit divisé en deux parties. Soit la personne réagit à partir de son esprit juste, dans ce cas-là c'est une expression d'amour, ou réagit à partir de son esprit faux. À ce moment-là, n'importe la forme de son comportement, s'il est bougon, s'il ne dit rien, s'il souffre en silence, si la personne est déprimée, triste, ou la personne t'attaque verbalement ou physiquement, c'est un appel à l'aide. Et c'est tout ce que c'est, parce que la personne se sent profondément écartée des voies de l'amour, de la présence de l'amour. Il pense qu'il a fait un ennemi de l'amour et maintenant il est pourchassé par une sorte d'amour, devient dément, devient fou. Il a extrêmement peur, il vit dans une terreur. C'est un appel à l'aide. il veut que quelqu'un plus sain, sain d'esprit soit en face de lui pour l'aider à comprendre qu'il n'a rien fait qui mérite l'attaque, une contre-attaque. Il craint une contre-attaque, il craint une attaque, c'est pour ça qu'il attaque. Oh, on y va. Une troisième partie. Là où ça se complique. Le dessous de table. Occulté de ma vue, mais néanmoins vrai, j'ai choisi ces perceptions justement pour prouver que le monde me fait des torts. Je fais ceci pour une raison précise, pour me déculpabiliser de ma responsabilité pour ma douleur et pour culpabiliser les autres à ma place. Il ne faut pas que je voie que c'est moi qui ai choisi d'écarter l'amour. Cette partie-là était... Ça revient juste à notre histoire de séparation, que j'ai choisi cette individualité, le sentiment d'être moi-même, puissant en moi-même, véridique, véritable, d'avoir ma personnalité en dehors de la personnalité ou de la présence de l'amour. Mais maintenant, il faut que je l'affirme. D'un côté, il faut que je trouve toutes les différences, mais plus que ça, il faut que je me décharge de ce mal-être que je sens. Je le couvre d'un côté, je mets un couvercle dessus, de l'autre côté, je vois tout le monde qui m'embête. Je ne peux pas être responsable pour ça. Peut-être qu'il y aura moins de bruit si on ouvre ce côté-là. Ça ne gêne pas tout. Là, c'était ouvert là-bas, il y avait pas mal de bruit des enfants. Mais peut-être si on ouvre là, on ne va pas... Oui, c'était ouvert là. Mais je ne sais pas, peut-être les enfants sont partis aussi. Bon, maintenant, je note ici quelques observations. Je note ici quelques observations par rapport au sentiment que cette situation de contrariété procure, je pèse mes mots, procure pour moi sur l'arrière-plan, le dessous de table de l'affaire. Un exemple, j'ai envie que quelqu'un en particulier me perçoive comme souffrant. Qui est-ce que je voudrais secrètement qui me voit dans cet état, qui soit au courant de mon état? À qui est-ce que je veux prouver quelque chose? Si je mourais demain, qui est-ce que je voudrais qui porte une certaine responsabilité, qui se culpabilise à mon sujet? Qui est-ce que j'accuse? Vous avez pu comprendre le sens de... C'est assez tranchant, c'est assez dur. Donc je veux savoir si vous avez eu déjà un problème d'interprétation ou de compréhension de cette question.
C'est une vengeance, là. C'est-à-dire que je me venge sur quelqu'un. Je vais choisir sur quelqu'un pour me venger sur elle. C'est-à-dire que quelqu'un m'a fait une vacherie, je vais le porter responsable de ma souffrance, de ma... Non, c'est pas ça.
Pas tout à fait.
La peur que l'identité disparaisse.
C'est lié à ça. C'est lié à ma peur que mon identité disparaisse. Donc, je cherche à le renforcer. À le renforcer. Et pour le renforcer, je dois me voir victime des autres. D'autres perceptions, je vais peut-être l'expliquer si au cas où ce n'était pas clair. C'est vraiment le plan peut-être le plus subtil, le plus difficile. C'est que chaque fois je suis souffrant, et il y a une partie de moi sur la surface qui est malheureuse, évidemment. Là où ça coince, c'est là où c'est plus intéressant. On enlève encore une couche d'inconscience et on essaie de voir si je suis souffrant, c'est par mon choix de quitter la présence de l'amour. Si je suis dans l'amour, je ne peux pas souffrir. Donc, c'est un choix. Quelque part, une partie de moi est réjouissante de souffrir. Réjouie dans la souffrance. Prend plaisir morbide dans la souffrance, qui est heureux d'avoir accompli cette magnifique œuvre, d'accord, de ma souffrance. Je prends plaisir dans mon image de souffrance, d'accord. C'est très subtil, il faut, et c'est très dur, parce que maintenant, comme dit le cours, maintenant je vois que l'ennemi n'est pas dehors. C'est pas l'ennemi là-bas qui veut que je souffre. C'est quasiment une partie de moi qui prend plaisir dans la souffrance. L'ennemi est en moi. J'ai un ennemi en moi qui ne me veut pas du bien, pas vraiment. Il pense que souffrir, c'est bien. Et pour l'ego, c'est bien parce qu'il arrive à s'affirmer, à parler de son histoire. Juste pour vous donner un petit exemple, combien de fois est-ce que vous avez vécu une situation difficile et effectivement vous l'avez raconté à quelqu'un? D'accord? Mais vous n'avez pas raconté à une personne, mais à deux, à trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix personnes, dix personnes. Vous ne l'avez pas raconté pendant deux jours, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pas pendant deux, trois, quatre, cinq mois, mais peut-être pendant dix ans, vous avez raconté et vous racontez toujours une certaine situation de souffrance. 40, voilà. 40, qui dit mieux? Qui dit 45? Est-ce que j'ai 45? Qui dit 50? Nous pouvons même dire, si vous croyez dans l'incarnation, nous pouvons même dire que nous racontons la même situation de souffrance, la même histoire de souffrance pendant peut-être 1000 ans. Et l'histoire de souffrance de base, c'est que Dieu m'a foutu en dehors du jardin d'Éden. C'est pas ma faute si j'ai atterri ici dans ce monde de souffrance. Dans la base, ça c'est la métaphore de base. C'est Dieu qui est responsable pour cet exil, c'est pas moi. C'est pour ça que nous en voulons à Dieu, malgré tous les jolis mots dans la Bible. Nous en voulons à Dieu pour ce que nous pensons être vraiment sa crime contre nous, son attaque contre nous. Mais pour parler de nous plutôt, nous avons tous vu, donc si vous vous trouvez dans cette situation de raconter votre histoire, vous pouvez peut-être voir qu'il y a une partie de nous qui cherche dans la conversation l'opportunité de raconter comment on a été souffrant, comment on a été injustement traité. Une partie de nous qui prend plaisir à nous revoir encore pour la centième fois, comment j'ai été victime. Waouh, c'est chouette. Punaise, mais merde, ah, là, j'ai été une bonne victime, je veux dire. Et c'est pas la seule fois non plus. Moi, je suis sûr, ah là, ça me rappelle d'une autre fois. Je t'ai raconté comment et quand. Qui n'a pas un peu de ça, hein? Donc, ça, c'est ce niveau-là. Alors, la prochaine fois que vous commencez à voir une situation d'injustice se manifester, commencer à s'imbriquer devant vous, et tu commences à voir comment tu vas trouver ton rôle de victime dans cette situation et te placer correctement en tant que victime, juste essayer d'être au courant que c'est ce qui est en train de se passer dans votre esprit. C'est ça qui est en train de faire. Et c'est pour marquer le point pour l'ego, je suis un individu séparé de Dieu, c'est pas ma faute, je suis victime, injustement traité par Dieu, mais Dieu manifesté dans cette vie avec tous ces différents acteurs qui remplacent Dieu pour nous. Essayez de vous voir en train de monter l'histoire dans votre tête. Ah, hey, je suis victime. Hey, c'est cool. Je veux dire, c'est mal, c'est mauvais, c'est pas bon. Ah là, non, 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 c'est pas bon du tout. Maman, oh là, tu croyais jamais ce qui m'arrive. Au travail, tu sais ce qu'ils disent de moi? Au travail, tu sais ce que mon patron il m'a fait? Maintenant, il m'a dit, il faut absolument que je vienne travailler samedi. C'est hors de question. Et maintenant, c'est la deuxième fois depuis 10 ans, depuis en deux mois, qu'il me dit qu'il faut absolument que je vienne. Et regardez-vous occuper le rôle et la place des victimes quasiment, et vous pouvez presque vous voir en train de quand ton patron ou je ne sais pas qui commence à vous traiter comme ça, vous pouvez commencer déjà à vous voir en train de dire oh. Tu veux éviter ça, hein? Je vois. Quand la situation est en train de se produire, vous pouvez même voir une partie de vous en train de dire « Mes amis ne vont jamais croire quand je leur raconte ça. » Mon mari ne va jamais croire ce soir quand je lui raconte ça. En train déjà de réjouir à raconter votre situation de souffrance.
C'est le côté méchant qui parle, là. C'est notre côté
se mettre en valeur, plus se mettre, donner une valeur, c'est toujours, encore ce n'est pas un péché, ça n'existe pas, le péché n'existe pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est de dévoiler le fonctionnement de votre esprit fou, de ce qui est l'esprit de l'individualité. L'individu se sert de tout ce qu'il peut pour dire qu'il existe, mais tous les malheurs de sa vie ne sont pas de sa responsabilité. C'est sa programmation de base. C'est ça. C'est tout ce qui est en train de se faire. Ça entre directement dans le fonctionnement de notre esprit fou qui est complètement écarté des voies de l'amour. Quelqu'un qui entre dans exactement la même situation, mais qui est dans son esprit juste, il ne va pas se servir de la situation pour, à la fin, trouver qu'il a été victime. Il ne va pas dire non plus que l'autre était gentil. Il ne va pas avoir une expérience de souffrance, c'est tout, par rapport à ce qui est arrivé. Il va trouver de la compassion pour le patron qui lui demande de venir encore une deuxième, troisième fois ce mois-ci de travailler le samedi. Il va trouver de la compassion parce qu'il va voir d'où vient l'exigence du patron. Il va être plutôt sensible à ça. Et il va savoir que être au travail ou être à la maison ou avec sa femme ou en train de ou avec sa canne à pêche à la plage ou à la rivière, c'est pareil pour lui. C'est pareil.
En fait, le fait de se positionner différemment, donc de se mettre dans cet état d'amour ça nous permet d'avoir des solutions plus, de trouver des réponses à une situation juste et fine et adéquate.
Oh, absolument, il n'y a aucune comparaison, je veux dire. Tu dis, Patricia, si on arrive à être dans cet endroit de plus de recul et de tranquillité, ça va nous aider à trouver ces solutions. Absolument, je vous promets qu'une fois que vous arrivez à faire ce basculement, vous allez trouver la réponse juste qui va essayer d'avancer les choses au lieu d'enfoncer les choses. Quand tu es bougon devant ton patron, même si tu essaies de sourire, tout ça, il capte, il sait ce qui se passe chez toi. Quand tu le prends comme une attaque, quand il demande de te pointer la troisième fois ce mois-ci, un samedi, quand ce n'est pas tes heures normales, et tu le prends mal et tout ça, ou tu le prends comme une victime, ou tu le subis, et tu dis oui patron, parce que tu as peur de perdre ton travail, tout ça, il capte tout ça, il emmagasine tout ça. Et dans son esprit faux, s'il est dans son esprit faux, il va se servir de ça. Il va faire ce jeu avec toi. Il va le maintenir parce que, pour lui, dans le délire de son esprit, il se sent agressé par son milieu de travail, il se sent avec des exigences de survie, et il se sert de toi, comme est très très courant dans le milieu des entreprises, mais aussi courant dans le milieu des familles, des couples. On pense qu'on doit se servir des autres pour accomplir ses besoins, ses fins. Et s'il est dans son esprit faux, il va pas se gêner d'utiliser ça. Or, si toi, tu es dans ton esprit juste, tu vas commencer à dégager quelque chose complètement différent. Et tu vas déjà, il va voir qu'il y a un décalage, qu'il va peut-être plus pouvoir faire la même chose avec toi qu'il a fait auparavant. Et il va peut-être basculer son attention sur notre maillon plus faible. Ou tu vas trouver la réplique, les mots, tu vas pouvoir articuler quelque chose. Peut-être dans le passé, tu vas essayer de dire « Mais enfin, patron, mais c'est absurde, pourquoi toujours moi ?» Tu as fait avec une idée de victime, avec un langage de victime, même si tu as essayé de le dire gentiment. Mais il a capté tout de même ça. Maintenant, si tu le dis avec ton esprit posé, tu peux dire exactement la même chose que je pense qu'il va falloir trouver une autre solution à ce problème, parce que demander aux employés aussi bien des autres que moi-même, de venir et faire toujours du travail supplémentaire n'est pas une solution à long terme qui va marcher. Et ça ne correspond pas aux exigences de ma vie. Mais tu dis tout ça d'une façon très adulte. Et en me regardant comme un être comme toi, avec un esprit faux et un esprit juste, il a aussi un esprit juste, tu as beaucoup, beaucoup plus de chance à l'aider à faire le choix de son esprit juste et d'avoir une pensée plus claire. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il va trouver une autre solution. C'est-à-dire, il ne va pas tout de suite dire, bon, personne ne va venir ce samedi. Peut-être qu'il y a une exigence au travail. Mais au moins, le fait qu'il bascule dans son esprit juste, il va trouver une autre façon de l'articuler pour toi. Et il va peut-être dire, je suis sincèrement désolé, je vais venir moi-même ce samedi, ou je fais aussi des heures de rap que j'ai vraiment pas envie de faire, ça m'agace et ça m'emmerde vraiment, que je dois demander à tout le monde de faire des choses que je sais qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais voilà, c'est la situation de notre entreprise en ce moment-là, on a les pressions, il va expliquer, il va remettre le cadre. D'accord? Et vous allez ressentir une complicité avec cette personne. Une positive. Et ça va te faire quasiment plaisir de venir au travail. Parce que tu vas savoir à quoi ça sert, comment ça sert, et tu vas te sentir aussi à l'aise au travail que tu aurais été à la maison. Parce que ce n'est pas le travail qui nous fait souffrir. C'est être en dehors de la présence de l'amour qui nous fait souffrir. Donc, deuxième partie, oui. La quatrième partie là, ma propre complicité dans ma gêne. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité ou complaisance de ma part sur un arrière-plan ou un certain laisser-y-aller en direction de la contrariété, la gêne, la peur, la blessure, la colère? Ou est-ce que j'ai essayé de contrer cette tendance de mal-être pour le retourner vers une autre perspective plus réfléchie, plus en recul, plus aimante, plus inclusive et compréhensive, avec moins d'implications personnelles? Notez ici quel est votre choix d'esprit quand vous réfléchissez à votre situation. Là encore, c'est très semblable avec la partie précédente. C'est pour dévoiler un autre niveau d'inconscience. Et c'est de voir que quelque part, il y a une partie de moi qui appelle à la souffrance, qui réjouit un peu dans cette idée de souffrir. Ne serait-ce que sur un petit niveau. Le soleil qui brille trop fort. C'est des choses très subtiles. La pluie qui tombe encore pour le xième jour. Est-ce que je le prends comme un fardeau, comme une corvée, comme un malheur, comme une punition, comme un châtiment du ciel presque? Est-ce que je prends la vie comme un châtiment? Okay. Et à quel point est-ce que je suis complice et complaisant dans ma manière d'aller vers cette perception? Je me laisse entraîner. Il pleut. Oui, il pleut. Deux personnes me saluent le matin et me disent, bah, c'est chiant, hein, il pleut. Pourtant, moi, je n'ai pas vraiment eu un sentiment de malheur ou de tristesse par rapport au fait qu'il pleuvait aujourd'hui, je dis bien. Mais je vois à cet instant que deux personnes avancent pour dire, c'est vraiment énervant, il pleut encore. Je vois ma complaisance, le mouvement intérieur vers ce même état d'esprit pour dire, oui, vous avez raison. Ah oui, c'est chiant. Ah oui, il a plu la semaine dernière et la semaine d'avant encore. Ben oui, effectivement. Mais aucun instant, est-ce que la pluie a pu vraiment enlever et détruire la présence de l'amour de cet magnifique endroit juste à côté de nous, en nous, 3-6 cm à droite, c'est toujours là. À aucun instant, est-ce que ces choses-là ont pu avoir cet effet sur nous? La mission de l'ego, le petit soi, c'est par tous les moyens, c'est de dire le ciel est brisé. C'est ce qu'il va nous dire, on va sortir d'ici et quelque chose va se passer, quelque chose va arriver. En centre-ville, tu vas arriver au magasin 5 minutes avant sa fermeture et ils ferment le magasin. Ils ont fermé le magasin déjà, ils voulaient partir plus tôt. Voilà, rien à voir. Hein? Ils ferment la caisse. Ah, je viens de fermer la caisse. Je suis désolé. Mais, ah, désolé. Voilà, c'est déjà fermé, j'ai déjà fait la comptabilité.
Ça n'existe pas, ça. C'est que vous avez gravé mille, ça.
Ah, là. Oui. Viens dans mon village. Il y a autre chose. Et il y a une petite voix en vous qui va essayer de se servir d'une certaine circonstance, comme pour dire le bonheur avec un grand B n'existe pas à cause d'eux. Voilà, le ciel est détruit à la fin à cause de quelque chose qui va se passer. Vous allez regarder, tout va planer pour vous à partir de la 5 heures maintenant. On va se dire au revoir et tout. Et vous allez planer. Ah ouais, c'était cool, c'était magnifique et tout ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 8h05. Qu'est-ce qui va se passer à 8h, 8h05? Qu'est-ce qui va se passer? Le journal, d'accord, les JT, d'accord, les journaux télévisés, ou une voisine, ou le repas. Bon, vous avez préparé le repas, c'était un truc un petit peu sensible, et donc, pas un grand truc, mais un petit peu sensible, et puis tu appelles les autres pour venir manger, pour venir à la table, et puis 20 minutes plus tard, ils arrivent, et les assiettes, qu'est-ce que ça donne après 20 minutes? La sauce, la sauce et tout ça.
Le soufflé est tombé.
Ah, et là, on ne plane plus. Fini le planage. Je suis très très content que vous avez survécu cette étape. D'accord? Vous êtes toujours ici. Personne n'a fui la pièce.
Hein?
Dans quel état? Oui. Je vous félicite d'être venu et d'être resté. Il fait très beau. Maintenant, vous êtes libre d'aller profiter de cette belle journée. Merci encore. Si vous avez des questions, nous réunissons une fois par mois. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à m'écrire ou m'appeler. Vous trouvez mes informations sur le site web. La prochaine réunion, c'est pour le 5 mai. C'est un dimanche la prochaine fois. Je voudrais juste ajouter un petit mot par rapport à cette conférence, parce que je ne souhaiterais pas qu'il y ait le moindre confusion par rapport à cette histoire d'histoire de victime. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être une tendance de penser que ce n'est pas bon d'avoir une histoire de victime, de raconter son histoire aux autres, ceci, cela. Si j'en parle un peu longuement, c'est simplement pour nous réveiller au fait de ce que nous sommes en train de faire, et ce n'est pas la partie de nous qui est aimante qui est en train de le faire, et qu'une fois que nous prenions conscience, nous aurions au moins le choix de voir si nous voulons continuer ou non. C'est-à-dire que le problème n'est pas le fait de raconter notre histoire de victime. Nous pouvons continuer. Il ne faut pas s'empêcher de faire, pensant que c'est mauvais, que c'est un péché, que c'est un crime, c'est désastreux. Il faut pas faire du tout dans cet esprit-là. C'est faire la même erreur. Donc, ce qui est beaucoup plus utile et constructif, c'est à la limite continuer avec son histoire de victime, et au moment qu'on s'entend commencer sa litanie de malheur et le drame de sa vie, commencer à se rendre compte de ce que nous sommes en train de faire et de commencer à avoir une sorte de petit sourire à l'intérieur qui est même amusé par notre propre comportement, de commencer à faire un petit écart, une petite distance entre nous et l'histoire ou la personne en train de raconter l'histoire, pour qu'on puisse s'observer en train de le faire, de monter ce scénario encore pour la xème fois, contre ces personnes, contre les bourreaux historiques dans nos vies, et de voir l'importance qu'on donne à ces gens du passé maintenant, parce que c'est du passé, pas si proche ou pas si loin. Ils ne sont plus là, l'événement n'est plus là, Pourtant, nous prenons une sorte de plaisir morbide, si vous voulez, à replonger dans cet univers de souffrance et de malheur. Et juste de commencer à se voir le faire. Ce n'est pas mauvais, c'est juste que maintenant que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire, nous avons une meilleure chance de choisir, de voir si c'est ce genre de comportement que nous souhaitons continuer. Et c'est même pas le comportement, c'est le même esprit. Est-ce que nous voulons continuer à nous mettre et remettre dans cet esprit-là qui est l'esprit faux, qui est la seule partie de nous capable de souffrir? Il faut toujours se souvenir, quand nous faisons cet exercice, la motivation, le but derrière cette partie de nous, c'est de toujours trouver les autres coupables pour le malheur dans nos vies, de trouver les responsables à l'extérieur de nous pour notre souffrance, une souffrance que nous avons fabriquée et acceptée nous-mêmes en ayant accepté le choix de la séparation. Je me sépare de la présence de l'amour, forcément j'ai mal, je me remplis de non-amour, mais maintenant je ne supporte pas être responsable pour ceci, je ne peux pas faire face à mon choix de me couper de la vraie source d'amour et de bonheur et de paix. Je ne veux pas remettre en question ce choix, j'aime bien mon individualité, donc maintenant, soudain, je vois les autres comme fautifs dans cette question de mon malheur. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est que nous sommes tous absolument pareils, il n'y a personne qui n'a pas son histoire de souffrance, de son histoire de victime. Et encore, la vraie guérison ici, c'est de commencer quasiment à rigoler à l'intérieur de notre comportement, de tout ceci, à penser que chacun a véritablement une voie vers la paix, le bonheur et l'amour en lui, et il ne le refuse pas, comme nous tous, en étant venus déjà dans ce monde, c'est ce que nous avons décidé de faire, et que par la suite, il cherche par tous les moyens de prouver que la vraie cause de son malheur n'est pas du tout en lui, dans ses choix, dans son esprit, mais c'est à l'extérieur, chez les autres. Nous commençons à être cet observateur capable de regarder l'ensemble de ces histoires, de chacun à côté de nous, chacun dans la ville à côté, chacun dans la ville capitale, chacun de chaque personne à l'étranger, certains groupes. Nous avons tous notre histoire de souffrance. Ce monde est une histoire de souffrance, est une histoire de victime. Et de commencer à observer tout ceci avec beaucoup de recul, à savoir qu'il y a sur l'arrière-plan un dessin derrière, un but derrière très précis, que nous pouvons maintenant regarder de plus en plus légèrement, sachant qu'il y a aussi un autre esprit bienveillant qui regarde avec nous sur l'ensemble de notre folie, de notre démence, qui nous dit « tu peux choisir autrement ». Tu peux choisir autrement et tu retrouverais la paix qui est derrière, juste derrière. Bon voilà, c'est mon petit mot, juste pour vous rassurer qu'il n'y a aucun mal à avoir nos histoires de souffrance et des victimes, et même de continuer à les raconter si on se rend compte de ce qu'on est en train de faire avec le sourire. Merci.